Matière à penser,
une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos
avec Fabrice Hadjadj
et Galdric Drapé.
Aujourd'hui, quatrième épisode de notre nouvelle saison sur les pères fondateurs de la pensée occidentale. Après nos trois poètes grecs, Homère, Hésiode et Pindare, le grand poète latin Virgile, avec cette question. Le monde païen attendait-il le monde chrétien? Le grand penseur catholique allemand, figure de la résistance intérieure au nazisme, Theodor Hecker, voyait en Virgile le père de l'Occident, et quelque chose comme la charnière entre le paganisme et le christianisme. Les pères de l'Église eux-mêmes lisaient la quatrième églogue des bucoliques comme une prophétie païenne annonçant le Christ. Il y est en effet question de la Vierge et de la naissance de l'enfant qui verra pour la première fois disparaître la race de fer et se lever la race d'or sur le monde dans son ensemble. Récemment encore, un ancien ministre de l'Éducation nationale, Xavier Darcos, écrivait un hommage intitulé « Virgile, notre vigie ». Pourquoi Virgile est-il si important? En quoi son œuvre est-elle une préparation évangélique, une médiation romaine entre Athènes et Jérusalem? C'est ce que nous allons essayer d'entrevoir après avoir écouté un passage au début de l'Énéide où Énée et ses compagnons, après avoir quitté Troie détruite, font naufrage sur les rives de Carthage et découvrent la cité bâtie par la reine Didon.
Ils gravissent bientôt la colline massive qui surplombe la ville et en regardent de plus haut les édifices. Énée admire l'étendue des constructions, des baraquements autrefois. Il admire les portes, le brouhaha, le pavement des rues. Les Tyriens s'activent. Les uns dressent des murs, édifient une citadelle, élèvent des blocs de pierre à force de bras. D'autres choisissent l'emplacement de leur maison et l'entourent d'une rigole de fondation. Ils se donnent des lois, des magistrats, un sénat vénérable. Ici, on creuse des ports, là, on jette les assises d'un théâtre et on dégage du rocher d'énormes colonnes, hautes décorations de la scène future. C'est ainsi que dans les campagnes en fleurs, dès le début de l'été, en plein soleil, leurs tâches laissent les abeilles sans repos. Elles font sortir les rejetons devenus adultes, condensent le miel coulant, gonflent leurs rayons de ce doux nectar, déchargent de leur fardeau les arrivantes ou encore se forment en colonne pour défendre leur logis contre l'espèce paresseuse des frelons. Tout est en effervescence et le miel odorant a un parfum de thym. Ô bienheureux, ceux dont surgissent déjà les murailles, dit Énée, et il lève les yeux vers le faîte des édifices. Au milieu de la ville était un bois sacré aux très riches ombrages. C'est dans ce bois qu'un spectacle inattendu s'offrit aux yeux d'Énée et adoucit pour la première fois ses craintes. C'est là qu'il osa, pour la première fois, espérer le salut et reprendre confiance en sa mauvaise fortune. Au pied de ce temple imposant, il en parcourait les détails en attendant la reine. Il admirait la chance qu'avait cette ville, l'émulation des artistes, leur travail et leur œuvre. Quand il vit retracer dans leur suite les combats d'Ilion et cette guerre que la renommée a fait connaître au monde entier, Agamemnon, Priam, Achille mauvais pour tous deux. Il fit halte et dit en pleurant, « Où qu'on aille, Achate, est-il un pays sur terre qui ne soit déjà plein du bruit de nos épreuves? Voici Priam. Ici même, la vaillance est récompensée. Ici sont les larmes des choses. Le sort des hommes frappe l'esprit. Dissipe donc tes craintes. Cette célébrité, vois-tu, sera peut-être notre salut. » Ainsi dit-il. Et il repaît son âme de ses vaines peintures en gémissant profondément, le visage baigné de larmes.
Fabrice Hadjadj, dissipe tes craintes. cette célébrité sera peut-être notre salut. Quel est le contexte de ce texte ?
Alors, texte dernier, texte de Virgile, vous avez évoqué les bucoliques qui sont plutôt des œuvres, la première, on pourrait dire, grande œuvre de Virgile, puis il y a la célébration de l'agriculture et aussi des abeilles, d'ailleurs, de l'apiculture dans les géorgiques. Et enfin, ce grand texte où il délaisse le frêle pipeau pour entrer, on pourrait dire, dans les pas d'Homère. Alors, certains diront, la parole d'Homère étant plus mythologique, lointaine, que c'est lui le grand, quoi, et que Virgile, qui en plus a l'air d'être stipendié par Auguste, puisqu'il écrit et il explique le fondement de Rome par Énée, un fondement mythique, donc ce serait la Rome serait fondée par des Troyens dont la ville aurait été détruite, la noblesse troyenne, ce roi troyen, lui-même fils d'Anchise et de Vénus. Donc c'est un demi-dieu aîné, en tout cas c'est le fils d'une déesse, même s'il est homme et mortel. Et donc il y a cette fondation avec en plus son fils qui est un Jule, un Iule, hein, donc ancêtre, pense-t-on, de César. Là, c'est vraiment la particularité, hein, de ce texte. Donc on pourrait dire, voilà, c'est un texte qui vient flatter l'empereur Auguste, César, etc. En fait, il faut comprendre que Virgile est un poète qui se situe à un moment de bascule, ce qu'on appelle la Révolution romaine. Il est né en moins 70, il va mourir en moins 19. Il a 20 ans quand César va franchir le Rubicon et il va assister à cette guerre civile entre les assassins de César, hein, et ceux qui ne veulent pas de l'Empire, et justement les héritiers de César, les tenants d'un empire, et il va faire le choix de l'Empire parce qu'il espère la paix. Alors lui-même va connaître l'exil. Dans les bucoliques, il présente un monde de pasteurs, mais ce n'est pas une Arcadie, hein, c'est un monde où les bergers peuvent être spoliés, précisément à cause de cette guerre, où des officiers vont prendre des terres, où des personnes vont être expropriées, transférées ailleurs, etc. Donc il connaît un monde quand même de bascule, de changement. Et toute sa tâche, parce que Virgile est l'homme de la pietas, qui a un double sens, à la fois la piété, c'est-à-dire l'amour que l'on doit à tout ce qui a raison d'origine par rapport à nous, donc nos ancêtres, nos parents d'abord, notre patrie, pietas à l'égard de ce qui tient aussi la patrie, donc ça sera la pietas à l'égard de l'empereur. Mais le mot pietas vous renvoie aussi à la pitié, et c'est vraiment aussi un grand auteur de la pitié. D'ailleurs, soit dit en passant, son tout premier texte qu'on lui attribue, on n'est pas absolument sûr, mais enfin, qui s'intitule Le Moucheron, le Moustique, hein, c'est un texte qui raconte l'histoire d'un berger qui tue un moustique, hein, qu'il a piqué. Mais en réalité, ce moustique va lui apparaître en rêve et va lui dire « Mais en fait, en te piquant, je t'ai réveillé de ton sommeil, tu allais être dévoré par une bête fauve et c'est comme ça que tu as été sauvé. Maintenant que tu m'as tué, sachant cela, tu dois m'accorder une sépulture. » Et alors voilà, il faut accorder une sépulture au moustique, au plus petit. Alors c'est très intéressant parce que, en fait, ce genre de texte, hein, écrire, c'est un texte qui fait plus de 400 vers, sur un moustique, est typique de cette tradition de la poésie alexandrine où on s'intéresse à des toutes petites choses, on fait des petites miniatures. Mais c'est très intéressant comment ce qui relève d'abord d'une esthétique, d'un tour de force poétique, vous voyez, au lieu de chanter des grands sujets, on peut imaginer ça, un peu comme va le faire Francis Ponge dans Le Parti pris des choses. Hein. On va s'intéresser, on va dire, on va faire un poème sur le cajot. On va faire un poème sur une cruche, hein, comme on ferait des natures mortes, d'une certaine façon. Et donc, c'est d'abord la prouesse esthétique qui est recherchée. Mais curieusement, vous voyez, cette poésie alexandrine qui, par esthétisme, va se tourner vers les petites choses pour faire des longs poèmes, prend une dimension éthique chez Virgile. C'est-à-dire que les petites choses ont un intérêt. Et toujours, il y a ce lien entre les grandes et les petites choses. Alors, voilà, dans le texte qu'on lit, c'est un texte que j'ai choisi parce que il contient à peu près tout. D'abord, il nous fait sortir de l'image fausse qu'on peut voir chez Chateaubriand ou chez Jean Giono d'un Virgile qui serait l'homme de la campagne, parce qu'il est auteur des Géorgiques, qui critique la vie citadine. Là, on voit Énée s'émerveiller de la construction d'une cité. Et cet émerveillement devant la construction d'une cité est précisément la cité, c'est ce qu'il y a de plus naturel. Parce que c'est faire comme les abeilles. Alors voilà. L'admiration des abeilles nous pousse à avoir des artistes et alors construction de la cité, qu'est-ce qu'on fait dans une cité? On édifie une citadelle, on se donne des lois, on a cette dimension politique, c'est au cœur ici. Mais d'un côté il y a l'artisanat qui construit et puis de l'autre côté ça s'achève, vous voyez, dans cette description avec l'art, c'est-à-dire avec le théâtre et la construction de la scène future. Puis il y a ce passage. Donc lui, il est parti, sa cité a été détruite et il voit une cité en train de se construire, là, en Afrique du Nord. Mais il sait, il a reçu la prophétie, et Mercure, enfin sa mère Vénus et Mercure lui rappellent sans cesse qu'il doit bâtir en Hespérie, c'est-à-dire en Italie. Hein, et donc il attend la prochaine cité à construire. D'où cette phrase « Bienheureux ceux dont surgissent déjà les murailles ». Il a connu le drame le plus terrible, qui est de perdre sa cité. Donc, il part en fondateur. Alors, ça c'est le premier point. Et puis, deuxième partie de ce texte, il arrive, ça c'est un texte extraordinaire, parce que c'est une mise en abîme. Il arrive dans un temple où déjà est retracée sa propre histoire à Troie, la guerre de Troie. Et c'est très beau parce qu'il contemple ce que le Virgile appelle des vaines peintures. Il y a ce passage, vous savez, très célèbre dans les Confessions de saint Augustin, où saint Augustin raconte qu'il lit l'Énéide et qu'il pleure en lisant justement les chapitres juste après, là, avec la mort de Didon, etc. Il disait je pleurais sur des vaines fictions d'une certaine façon. Mais déjà, Virgile dit mais c'est des vaines peintures, on pleure, bien sûr. Sauf que lui, ça renvoie à cette histoire. Et il y a, dans ce passage, une grande affirmation sur le fait qu'il va du sort général des hommes, hein, cette l'épreuve, et cette phrase intraduisible, « sunt lacrimae rerum », qu'on a pu traduire par... ici, j'ai modifié la traduction ici de Paul Venn, que j'ai reprise. Ici, il y a des larmes pour tous. Mais littéralement, ce sont les larmes des choses. Ici, sont les larmes des choses. Traduit. Qu'est-ce que c'est que cette affirmation? Theodor Ecker dira, c'est une affirmation ontologique. Les choses pleurent. Les choses même pleurent. Les choses sont en attente d'une sorte de rédemption.
Vous écoutez Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos. Avec notre question aujourd'hui, le monde païen attendait-il le monde chrétien? Fabrice Hadjadj, avec cette question qui nous occupe aujourd'hui et ce que vous venez de dire à l'instant, je ne peux m'empêcher de faire le lien avec Romains 8. Et il y aurait beaucoup de liens à faire en fait entre Virgile et le christianisme. Pourquoi est-ce qu'il a été considéré justement comme cette passerelle entre le monde païen et le monde chrétien, même comme un passage entre Athènes et Jérusalem?
Alors, bon, il y a l'aspect, je dirais, que je dirais presque anecdotique, même si en disant cela, c'est presque un blasphème. Enfin bon, les pères de l'Église, certains ont vu dans ce discours de la Sibylle qui est mise en scène dans la quatrième églogue, une prophétie, une annonce. Alors les philologues d'aujourd'hui diront, oui, mais cette Vierge, c'est Lucine, cette annonce, bah, c'est juste l'annonce enfin, de la paix romaine, de la Pax Romana, instaurée par Auguste, etc. Il ne faut pas aller chercher bien loin pour donner des significations pas du tout prophétiques, finalement, peut-être un peu anticipatrices, mais de choses politiques. Et d'ailleurs, on sait très bien que Virgile sera le thuriféraire du règne d'Auguste, etc. Bon. Oui, pourquoi pas. Il reste que quand même, il parle d'un monde où la terre, justement, devient sans labeur. Il y a, à la différence d'Hésiode, où l'âge d'or est absolument derrière, là, il y a quelque chose. Donc, comment se fait-il qu'on va retrouver un âge d'or? Là, cette bascule est vraiment, montre déjà un autre rapport au temps. Alors, cependant, justement, il y a des choses qui sont beaucoup plus profonde. La première chose, peut-être, c'est Paul Venn qui insiste là-dessus, c'est que aîné, si on prend la figure simplement d'aîné, si on prend les géorgiques, bon, chez Hésiode, on trouvait des choses analogues, mais il faut se focaliser sur l'énéide. Si on prend la figure d'aîné, la première chose qui nous frappe, c'est que ça n'est pas Ulysse, ce n'est pas l'Odyssée. Il ne retourne pas chez lui. Chez lui, c'est détruit, il part en avant. On n'est plus dans la logique du nostos, du retour, et donc de la nostalgie. On n'est plus dans la boucle, dans le circuit, le cycle, tout à fait païen. On est dans une ligne droite. Et là, on pourrait dire, bah, alors aîné, ça nous rappelle quelqu'un qui quitte Ur en Chaldée et qui va aller en Terre Promise, va à l'endroit que je te dirai. Oui, il y a plus de liens entre aîné et Abraham qu'entre Ulysse et Abraham. Alors, Abraham ne rentre pas chez lui. Donc, anti-Ulysse. Deuxième chose, aîné, quand il va quitter Troie, va porter son père sur les épaules. Et le père va porter les pénates, les dieux du foyer. On a d'ailleurs à la Villa Borghese la très belle sculpture du Bernin, une sculpture de Genèse, où on voit aîné portant en chise sur ses épaules. Alors là, c'est l'anti-Œdipe. Là, il y a un rapport au père qui est extrêmement, extrêmement fort, c'est cette piété, hein, le pieux aîné, ça revient tout le temps, qui est mise en avant. C'est pas Achille au pied léger, hein, c'est le pieux aîné qu'on voit toujours. Donc, se dégage un rapport au père qui est très différent de celui qu'avait introduit la tragédie grecque. L'autre aspect qui est mentionné très fortement par Paul Venn, c'est que ça n'est pas un héros à exploit, mais un héros à mission. Aîné, c'est pas Hercule. Il accomplit pas. Bon, il va y avoir dans la fin de l'Énéide des combats, des prouesses, mais tout le début est quand même autre chose, quoi, et porté par autre chose, avec un aîné qui pourrait s'arrêter dans les bras de Didon, qui a tendance à chaque fois à oublier ce qu'il doit faire. Et Mercure arrive et prononce ce qu'on appelle des mercuriales. Ouais, le semonce, il lui dit « Attends, t'as oublié qu'on t'a dit d'aller fonder un truc en Italie. Alors maintenant, vas-y, quoi. » Donc il est toujours dans une sorte d'écoute de cette parole de Vénus et de son intermédiaire, enfin d'Hermès ou Hercule, Mercure. Et donc, il est vraiment plutôt celui qui répond à une mission plutôt que celui qui a une force qui lui permet d'accomplir des exploits. Ça, c'est... Et alors, l'autre aspect qui est très drôle, on pourrait même en faire un anti-Orphée, parce que Orphée se retourne sur Eurydice, qui retourne en enfer à cause de ça, il aurait dû ne pas regarder. Or, il y a ces scènes très étonnantes. Ça arrive à Didon, d'ailleurs, hein, puisque Didon tombe amoureuse de lui et il s'en va, et alors il y a ce fameux suicide de Didon. Mais ça arrive déjà avec sa femme dans Troie. C'est quand il va raconter à Didon que lorsqu'il quitte Troie, il emmène son père, leur fils, Ascagne, Ascagne-Iule, et en fait, il la laisse derrière. Et il va tellement en avant qu'il va falloir qu'elle lui apparaisse en vision et qu'elle lui dit « De toute façon, ne t'as plus besoin de te retourner parce que je suis morte dans l'incendie de Troie. » Donc, c'est un personnage très étonnant. Personnage à mission, personnage de la ligne droite et pas un personnage du retour. Donc, c'est ça qui fait que c'est un véritable intermédiaire.
Fabrice Ajadj, Virgile occupe ensuite dans la culture occidentale une place prédominante qu'on voit notamment dans la Divine Comédie. Il sert de guide à Dante.
Oui. Pour deux raisons. C'est vrai que c'est lui qui est donc père de l'Occident et donc préparant le grand poète catholique Dante. Ouais, c'est ce que dit Théodore Ecker, c'est exactement ce que vous dites là. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Virgile devient le guide de Dante? D'abord, Dante reconnaît en lui le plus grand poète, et je dois dire que même Paul Claudel appartient à une génération où on estimait que Homère était une préparation à Virgile, que le grand c'était Virgile. Mais il y a toute une tradition qui va venir plutôt de l'Allemagne, qui va dire non, les grands ce sont les Grecs et les Latins, c'est pas grand-chose, quoi. Et c'est une manière un peu de jouer la germanité contre la latinité, voyez, en disant, mais nous, germains, qui ne sommes pas latins, nous avons une écoute plus originelle des Grecs. Enfin, c'est tout le discours de Hölderlin, de Heidegger, etc. Mais c'est vrai que Virgile est fondamental dans notre culture. Et alors, d'abord parce que c'est un grand penseur de l'amour. Il y a cette phrase dans les Géorgiques, hein, « Amor in omnibus idem », l'amour est le même en tous. Et ça nous fait forcément penser au dernier vers de la Divine Comédie, hein, « L'amour qui meut le soleil et les autres étoiles ». L'amour n'est pas un sentiment chez Virgile, c'est vraiment ce qui traverse tout le vivant et tout le cosmos. Et c'est là où là on voit chez Virgile une intuition pré-chrétienne que reconnaîtra Dante. Et puis, de l'autre côté, il y a une certaine vision, on pourrait dire, de la croix, à travers l'autre affirmation qu'on trouve dans les Géorgiques, que le labor omnia vincit improbus. Hein, alors, le travail triomphe de tout, oui, mais attention, le travail improbus, on ne sait pas traduire ce terme, voyez, improbe, le travail ingrat, pénible, acharné, malhonnête. On ne sait pas comment dire, improbe. Oui, parce que ça, c'est, y a un labeur, on ne sait pas, une sueur et parfois sans résultat. Alors pourquoi? Quand on voit tous ceux qui ont le travail des paysans dans ce passage des Géorgiques où ils ont élevé des bêtes, etc. Et puis il y a une immense épidémie, enfin une épizootie, hein, comme on dit, une épizootie. Qui frappe tout le bétail, et Virgile ne donne pas de solution. Il est comme effaré et sans voix. Et puis, il y a là le tout dernier vers de l'Énéide, sur quoi l'Énéide non pas s'achève, mais s'inachève, devrait-on dire, puisque c'est une œuvre inachevée, avec la mort d'un adversaire de Turnus, hein, vitaque cum gemitu fugit indignata sub umbras. La vie dans un gémissement s'enfuit, indignée sous les ombres. Alors, cette vie qui s'enfuit sous les ombres, cette fin, c'est aussi le début, hein, de la Divine Comédie, où au milieu de la vie, on est égaré dans une forêt obscure. La vie est en train de fuir sous les ombres. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a vraiment chez Virgile, enfin c'est ce que je pense, parce que certains auraient tendance à, en allant vite en besogne et en mettant un peu tout dans le même sac, à faire de Virgile un stoïcien. Et à dire au fond, la philosophie de Virgile, la pensée de Virgile, c'est une pensée qui correspondrait à celle de Marc Aurèle, un homme qui croit à l'ordre du cosmos, et il faut accepter. Mais le stoïcien, il se résigne devant le mal, il accepte, il est dans amor fati, hein, la mort l'amour de la fatalité, de ce qui est donné, on ne va pas changer l'ordre du cosmos. Alors que chez Virgile, il y a les larmes des choses, il y a l'attente d'autre chose. Alors c'est ça, c'est là où on voit ce passage, peut-être, cette espérance, voilà, qui est à l'état, en creux, ouais, et qui attend peut-être la révélation judéo-chrétienne.
Merci Fabrice. C'était Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec Virgile, Fabrice Hadjadj, Galdric Drapé et Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les samedis à 11h30, et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt, et n'oubliez pas que vous êtes intelligents.